Vous écoutez France Culture.
Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Le corps, les émotions, les sens, le sexe sont devenus des objets historiques à part entière. Et nous avons eu souvent l'occasion de les rencontrer. Ce n'est pas d'aujourd'hui, quand on réfléchit par exemple au lancement de l'histoire de la vie privée, dirigée par Ariès et Duby, ce souci était déjà très présent. Mais enfin, tout de même, le corps et le sexe moins que par exemple la vie privée ou l'intimité. Janine Mossus-Laveau et Thomas Boucher, mes invités d'aujourd'hui, apportent à ce sujet une contribution tout à fait originale. Avec Dictionnaire des sexualités, dont elle est l'initiatrice et la maîtresse d'œuvre, Janine Mossus-Laveau, politologue, pionnière de l'histoire politique des femmes, directrice de recherche au CEVIPOF, chargée de cours à l'Institut d'études politiques, nous offre un remarquable instrument de travail et une synthèse dont les notices, dues à des auteurs tout à fait talentueux, donnent véritablement une idée. Ce dictionnaire est une véritable promenade dans ce jardin des tourments et des délices qu'est la sexualité, que sont les sexualités. Janine Mossus-Laveau, tout à l'heure, nous guidera dans ce jardin. Thomas Boucher est enseignant-chercheur, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Il est spécialiste du 19e siècle, auteur de nombreux livres, notamment d'un livre très remarqué sur l'insulte en politique, intitulé « Nom d'oiseau » et qui est paru chez Stock en 2010. Et alors aujourd'hui, chez Stock, il publie « Les fruits défendus, socialisme et sensualité du 19e siècle à nos jours ». Socialisme au pluriel, sensualité au singulier. Et il nous expliquera pourquoi. Alors d'abord, je voudrais à mes deux auteurs, à mes deux invités, que je remercie beaucoup d'être là, leur demander pourquoi ces livres et pourquoi maintenant. D'abord en général, un petit peu dans l'historiographie de l'histoire et de la politique, et puis aussi dans chacun de vos parcours. Thomas Boucher, vous êtes un spécialiste du 19e. Vous avez publié, on l'a dit tout à l'heure, sur les révoltes du 19e, sur les insultes en politique, beaucoup d'autres choses. Pourquoi ce livre maintenant ?
Eh bien, je pense que ça résulte de la rencontre entre un itinéraire personnel et puis un intérêt de plus en plus marqué pour les problématiques qui, à mon tour, m'intéressent. C'est comme lorsqu'on prénomme un enfant, on a l'impression au début que le prénom est original. En vérité, il s'inscrit dans des tendances profondes. Beaucoup de travaux sont publiés sur les socialismes actuellement, en relation peut-être avec une incertitude sur le socialisme actuel ou ses diverses formes. Quant à la sensualité, c'est un des domaines d'expression des grands questionnements dont vous parliez en introduction générale. L'intérêt pour le corps, l'intérêt pour les sens, l'intérêt pour les sensibilités, pour l'expression de tout cela.
On pense évidemment aux travaux d'Alain Corbin, mais pas seulement. Georges Vigarello, Jean-Jacques Courtine, enfin tout ce champ s'est en effet beaucoup développé.
Ah oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que vous avez voulu donner un corps au socialisme et aux socialistes.
Oui, c'est juste. La référence à Alain Corbin est décisive. Il a vraiment nourri ma réflexion depuis très très longtemps. De mon côté, ce qui m'a intéressé depuis longtemps, ce sont les formes de la subversion, de la transgression, du refus ou de la contestation des normes par le biais de l'insurrection, bien sûr, par le biais de l'excès verbal aussi. Et puis je me suis rendu compte que le rapport au corps, présentaient des enjeux tout à fait remarquables sous cet angle spécifique. Et comme je tournais autour de la question socialiste depuis longtemps sans l'avoir abordée de front, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'accoler ces deux réalités avec un guide, un petit guide et une pensée qui, elle aussi, m'intéresse depuis longtemps, celle de Fourier. Fourier, à l'orée du 19e siècle, oui, met en place un certain nombre d'éléments majeurs.
On va y venir, voilà. On va parler de Fourier quand même, c'est un grand homme dans la matière. Mais voilà, au fond, vous avez voulu croiser deux problématiques, le corps, les sens et le socialisme. Et ça, c'est effectivement, c'est beaucoup plus neuf. Hein. On n'a pas tellement interrogé les socialistes et le socialisme sous cet angle-là.
La question n'est pas complètement nouvelle et ces interrogations ne sont pas complètement inédites. J'ai trouvé dans bien des ouvrages des mentions, mais souvent fugaces, furtives, peu approfondies à ce type de questionnement. Tout le problème a été de rassembler cette matière éparse et effectivement de donner corps aussi concrètement que possible à ces positionnements socialistes qu'on connaît mieux sous l'angle politique, sous l'angle économique et social.
Absolument. On va y venir. Vous allez on va feuilleter avec vous tous ces pensées des socialistes sur le corps. Jeannine Mossius-Lavaux, alors vous êtes une pionnière véritablement de l'histoire politique des femmes, de la réflexion politique sur les femmes que vous avez vraiment introduit dans le cadre du CEVIPOF. Par ailleurs, vous êtes intéressée à la sexualité depuis longtemps. Mmh. Vous avez fait un livre qui s'appelle « Les lois de l'amour ».
Oui. Hein,
vous aviez étudié les politiques publiques, au fond, et ça, on va y revenir aussi avec les socialistes, sur la sexualité, l'amour, la contraception, etc. Et puis, vous êtes intéressé beaucoup à la prostitution, pour ne citer que cela. Hein. Alors, comment en êtes-vous venu à ce dictionnaire des sexualités ?
Alors, ce dictionnaire des sexualités, je pense qu'il est, disons, à la rencontre donc de deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus parler, à mon avis, de la sexualité. Il faut parler des sexualités, parce que on est dans un monde qui évolue sans cesse, et une société, en tout cas comme la société française, où aujourd'hui, si on vous dit LGBTQI, il faut savoir que ça renvoie à cette réalité des sexualités d'aujourd'hui qui est qu'on prend en compte les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les queers et les intersexués. Voilà, c'est beaucoup de choses. Alors, on peut me dire, oui, mais tout ça, ça existe depuis très longtemps. Simplement, effectivement, il y a toujours eu de l'homosexualité, enfin, toutes sortes de choses, mais c'était réprimé, c'était contraire au modèle qui était présenté, en tout cas par diverses autorités. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces sexualités, toutes ces identités sont devenues légitimes et ne sont plus réprimées par des lois abominables comme l'homosexualité a pu l'être, y compris en France, avec des homosexuels envoyés au bûcher à une certaine époque. Donc aujourd'hui, il y a les sexualités, non plus la sexualité entendue comme, si je fais un raccourci un peu caricatural, le coït hétérosexuel destiné à promouvoir, enfin disons à engendrer et à conduire à de la procréation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis dans mon itinéraire personnel, c'est vrai que j'ai fait cette recherche dont vous parliez, qui s'appelle les lois de l'amour, sur tous les débats et combats qui, depuis les années 50 jusqu'à quasiment aujourd'hui, en France, on conduit à des changements de législation dans des domaines concernant les sexualités, c'est-à-dire tous les débats, combats, y compris parlementaires et autres, sur contraception, avortement, viol, homosexualité, sexualité des jeunes, etc. Et après cette étude, donc du point de vue, au fond, des débats, des combats, des lois, j'ai eu envie de savoir dans les comportements dans la société, qu'est-ce que ça donnait au niveau des comportements. Donc j'ai fait une enquête par histoire de vie pour que les gens me racontent depuis leur enfance leur itinéraire, enfin leur vie amoureuse et sexuelle. Et ça a donné, le livre s'appelle la vie sexuelle en France, qui oui, maintenant qui d'ailleurs est en point seuil.
En poche.
Et donc quand on m'a... c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Barré, qui dirige la collection Bouquins chez Robert Laffont, m'a demandé de faire un dictionnaire des sexualités. Et pour moi, ça bouclait une boucle d'une certaine façon, parce que ça permettait d'élargir les questions que je me posais et puis les réponses que j'avais tenté de donner sur certains secteurs avec mes enquêtes, de l'élargir à la littérature, au cinéma, à la chanson, en plus de, évidemment, toutes les choses qui sont prises en compte, c'est-à-dire qu'est-ce que nous disent sur les sexualités les différentes civilisations, les différentes religions, les orientations, les pratiques aussi, les familles politiques, les lieux.
Oui. On va venir tout à l'heure
voilà,
donc, du livre.
Voilà, tout ça oui. Fait que ça arrivait au bon moment.
Au bon moment, c'est voilà. Ça. Moi, je remarque en ce moment beaucoup de dictionnaires. Hein, dictionnaire des créatrices, par exemple, chez Antoinette Fouque, édition des femmes. Il y a beaucoup, on a l'impression qu'il y a un besoin de synthèse, que depuis 20, 30, 30 ans, il y a des sujets comme ceux dont nous parlons qui sont développés, qui ont explosé. Et on a besoin de faire un peu le point. Mais tout à l'heure, vous allez nous dire comment vous avez fait, parce que c'est pas rien de faire un travail comme ça. Et je reviens vers vous, Thomas Boucher. Donc, socialisme au pluriel et sensualité du 19e siècle à nos jours, paru donc chez Stock. Je remarque d'ailleurs que dans vos deux livres, les pluriels.
Oui.
Hein, dictionnaire des sexualités, Jeannine Mossus-Lavaux vient nous expliquer pourquoi, et vous, les socialismes au pluriel. Enfin, on voit aussi qu'il y a une grande diversité d'attitudes et de familles, et il est probable que le sujet que vous avez choisi, le corps, le sexe, permet justement de rendre compte de la diversité des pensées et des attitudes aussi socialistes de ce point de vue. Alors, comment avez-vous travaillé, Thomas Boucher, quand on pose ce sujet-là, comment on fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Avec quoi vous avez travaillé?
On commence par se poser plein de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse immédiate parce que le territoire était relativement vierge. On relit les ouvrages de ceux qui ont précédé. On trouve des choses fascinantes chez Louis de Vence, par exemple, chez Marc-Ange.
Sur la famille. Louis de Vence avait fait un travail sur la famille et le socialisme.
Un travail remarquable.
Remarquable.
Méconnu à mon avis,
tout à
qui
fait.
Valait
Moi,
vraiment
oui,
le détour.
Je connais bien, mais c'est très méconnu.
Donc voilà, on fait des découvertes bibliographiques et puis on retourne dans les sources. J'ai connu quelques aventures intellectuelles bien sympathiques du côté d'Amsterdam, à l'Institut d'Histoire Sociale, du côté des Archives Nationales, du côté de la BDIC de Nanterre, avec des gens extraordinaires, du type de Franck Véron, par exemple, à Nanterre. Et puis à partir de tout ça, eh bien, je me suis posé un certain nombre de questions. J'ai essayé effectivement de proposer une définition de socialisme. Je ne souhaitais pas le singulier parce que la réduction du socialisme à un parti socialiste actuel était à mon avis trop réductrice et dommageable. Les socialismes du 19e siècle que je connais un peu sont extraordinairement divers, variés, contrastés, actifs, vivants. Et je voulais vraiment mettre cette réalité en évidence, y compris au 20e que je connaissais un petit peu moins. Voilà pour socialisme. Et puis sur sensualité, je me suis trouvé face à un continent difficile à circonscrire. Donc j'ai choisi trois directions principales pour dire vite, faire l'amour, faire bonne chère et faire la fête. Voilà. Donc je serai
le lit, la table, la fête.
Et la fête, voilà. Trois domaines de la vie personnelle et collective assez réjouissants sur lesquels les discours sont formidablement contrastés, clivés. Ça m'a donné l'impression que travailler sur ces objets peut-être un peu inattendus ou peu orthodoxes permettait d'écrire une histoire des socialismes, parce qu'il y a un peu ça dans mon horizon au moins initial, en décalage avec ce qu'on a lu jusqu'à présent, nourri de tout le reste bien entendu, mais apportant sur certains grands penseurs du socialisme ou des socialismes par exemple, des lumières un peu nouvelles, on les imaginait pas forcément tous comme ça. Comme ça.
Oui, oui, oui. Aussi bien leurs pensées que leurs attitudes personnelles. Je pense à Marcel Samba. Qui est très intéressant parce que il nous dit sa pensée, mais il nous dit aussi c'est son intimité, c'est de manière tout à fait vivante et intéressante. Donc, en effet, un immense domaine, des socialismes pluriels. En vous lisant, moi j'ai eu le sentiment quand même d'une césure dans cette évolution, c'est l'apparition des partis. Quand le socialisme se structure en partis, le langage et les attitudes devant la sexualité et le corps, d'une certaine manière, se figent tout de même, me semble-t-il.
Oui, oui.
Je suis peut-être provocante, mais qu'en pensez-vous? Il me semble qu'au XIXe siècle, ils n'ont pas d'obligation, sinon de penser, de proposer. Hein, et à partir du moment où ils sont des partis, ils deviennent sérieux. Il faut qu'ils proposent des politiques publiques aussi. Et là, il me semble que c'est tout à fait différent. Par exemple, tous les grands débats sur la contraception, les lois de l'amour, tant qu'ils ne sont pas en charge des lois, ils sont plus libres. Qu'en pensez-vous?
Oui, je vous rejoins sur ce point. La question qui m'a occupée était celle de l'exercice possible ou réel du pouvoir. Et ça rejoint très directement ce que vous indiquez. Lorsque l'enjeu de pouvoir est lointain, les socialismes peuvent se montrer exubérants, imaginatifs, très en décalage par rapport aux logiques de l'exercice effectif du pouvoir. Mais probablement que dans cette histoire, une première étape est à ne pas négliger, c'est le moment 1848. Où l'exercice du pouvoir devient un horizon possible pour tous ces groupes socialistes qui ont réfléchi, proposé pendant cette période extraordinaire de la monarchie de Juillet, où les systèmes, les idées s'opposent, se renforcent les uns les autres. À partir de 1948, il y a quelque chose qui se joue, à la fois dans le rapport entre les socialismes et le pouvoir, et dans le regard jeté sur les socialismes par leurs ennemis et leurs adversaires, qui se mettent à avoir très peur.
Oui. Oui, oui,
et on retrouve ça de manière très nette aussi, et vous avez raison effectivement sur ce point, au tournant du 19e et du 20e siècle, avec la structuration en partis, et puis à ces moments clés que sont le Front populaire de 36 ou bien l'exercice du pouvoir à partir de 81.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me suis posé la question en vous lisant bien sûr, une deuxième donnée qui est au fond une moralisation de la société. Il me semble qu'il y a quand même un refoulement au XIXe siècle, relatif, puisqu'au contraire, on le connaît de plus en plus, le corps est objet d'enquête. Mais la respectabilité, par exemple, pour le monde ouvrier, être respectable, c'est d'une certaine manière bien se tenir, pas coucher n'importe comment. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, en dehors de l'histoire des partis, quelque chose de plus global?
Je le pense, et en même temps, pour moi, c'est un continent assez mystérieux. Donc, je pense que ma voisine de gauche aura bien des choses à dire sur la question. En deux mots simplement, et avec beaucoup de prudence, cette histoire, je m'en suis rendu compte, n'est pas une histoire tout à fait linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des tendances de fond, celle que vous décrivez est tout à fait présente. Et en même temps, des moments d'écart avec cette tendance, des moments dans l'histoire du XXe siècle où les choses ne se présentent pas de la même manière. Ces années 68 qui ont été travaillées de très près ces temps-ci, et les travaux publiés m'ont bien aidé à y voir plus clair, sont un moment de remise à plat à l'intérieur des grandes familles socialistes une fois encore au sens large.
Parce vous que voulez dire 1968,
les années 1960, voilà, c'est ça
le 20e siècle.
Voilà, oui. Pardon, oui, oui. Le 20e siècle. Je quitte mon 19e siècle, chéri, et oui. Je m'aventure au 20e, oui. Et ces années 68 sont un moment où les grandes évolutions de la vie en société, au-delà même de l'histoire des socialismes, sont remises à plat et on trouve des figures dans les années 1970 qui, par certains côtés, rappellent de très près leurs grands ancêtres du 19e siècle commençant.
Oui, oui. Oh, puis par ailleurs, il ne faut pas du tout simplifier. On voit très bien que dans les périodes où il y a des idéologies dominantes, en quelque sorte, il y a toujours des dissidences, des variétés. Ça, vous le montrez très bien. Alors, votre plan est chronologique. Vous avez choisi un plan chronologique, ce qui a beaucoup d'avantages,
quelquefois des inconvénients, parce que c'est morcelé malgré tout, et de temps en temps, on aurait aimé peut-être un peu plus de synthèse, mais on va y revenir dans la discussion. Au fond, il y a deux grands versants dans le socialisme, alors là c'est bête comme chou, hein. Il y a un versant plus ascétique et un versant plus jouisseur, hein. Et
oui.
Ces deux données se déplacent continuellement. On commence par la jouissance. Commençons par la jouissance qui est quand même éclatante dans le début du 19e siècle avec quelqu'un comme Charles Fourier. Pouvez-vous nous dire un mot de Charles Fourier et de son grand intérêt pour le sujet ?
Oui, difficile à synthétiser. Il a fallu dans un premier temps que je me mette au clair sur Fourier et socialisme. Ça n'allait pas de soi. Il n'est pas évident de considérer Fourier comme un penseur socialiste. Je pense qu'il l'est parce qu'il est un vrai penseur de l'émancipation et de l'émancipation ensemble face à un ordre donné qu'il rejette de toutes ses forces. Et il trace les chemins de l'émancipation. Ses critères d'appréciation m'ont donné l'impression que je pouvais l'intégrer de manière très nette dans cette longue histoire. Alors Charles Fourier, oui, du côté du socialisme sensuel ou du socialisme jouissant, c'est un penseur déterminant. Déterminant en lui-même, parce qu'il essaie d'imaginer, de construire, de structurer une vie en société fondée sur les passions, sur toutes les passions, dans leur agencement et leur harmonisation, en dehors de toute considération morale. Et en relation avec de vraies interrogations sur la vie économique et sociale des uns et des autres. Ou des unes et des autres, puisque c'est un penseur de l'émancipation des femmes, hein. Et un des plus remarquables qui soit, et très très tôt dans le 19e quand même.
Oui.
Bien, Fourier est important aussi parce que, et là vous touchez un point sensible sur la question de la synthèse ou bien d'analyse plus transversale au-delà des périodes, Fourier continue de travailler les socialismes de manière plutôt secondaire et parfois périphérique, j'en conviens, mais tout au long du 19e et tout au long du 20e siècle. On retrouve, par exemple, du Fourier 70s, hein, dans les années 1970, mais auparavant, les colonies libertaires du tournant du 19e et du 20e sont, pour certaines d'entre elles, très nourries par la pensée de Fourier. Mais si je parle de Fourier, il faut aussi que je parle, mais en un mot ou en une phrase, de certains contemporains ou tout juste successeurs qui sont les Saint-Simoniens.
Oui, avant que vous ne quittiez Fourier, quand même rappeler que Le Nouveau Monde Amoureux, qui est un des grands textes de Fourier, a été réédité par Simone Debout en 1967 et que cette réédition a été une date. Hein. Moi, je me souviens très bien de la présentation qu'elle avait faite de ce livre. Et c'était comme une espèce de résurrection avant 68. Ouais. Hein, et vraiment dans l'atmosphère des années 68. Et ouais. D'ailleurs, Simone Debout, Janine Mossu de Lavaux, c'est elle qui, je crois, fait la notice Fourier.
Oui, la notice Fourier, je l'ai demandée à Simone Debout parce que elle a été l'éditrice Fourier et que c'est une personne qui a une connaissance extraordinaire de l'œuvre, de l'homme. Et elle a donc fait la notice Fourier, puisque dans ce dictionnaire, il y a toutes les périodes historiques, tous les penseurs, enfin tous, disons, ceux ou celles qui ont quelque chose à dire sur les sexualités. Et là, ça s'imposait.
Ça s'imposait absolument.
Absolument.
Alors les Saint-Simoniens, que vous aimez bien aussi.
Oui.
Moi aussi d'ailleurs.
Oui, qui sont très attachants ou attachantes d'ailleurs, oui. Et très stimulants et stimulantes pour la réflexion et la pensée sociale. C'est par exemple « Engendrons par le travail, embrassons, caressons la terre ». Ça, c'est du Prosper Barthélémy Enfantin dans ses correspondances. Ça dit beaucoup de choses sur le rapport entre les Saint-Simoniens et la sensualité ou les diverses formes de sensualité. Alors, c'est pas une évidence parce que des lignes de clivage apparaissent à l'intérieur même des écoles, des groupes. Les Saint-Simoniens s'entre-déchirent sur les enjeux de sensualité. Oui. Mais certains ou certaines d'entre eux assument jusqu'à leurs ultimes limites cette volonté d'émancipation des corps et par les corps. C'est le cas d'une Saint-Simonienne absolument remarquable qu'il vaut la peine de relire sans cesse et qui s'appelle Claire Démarre.
Elle est extraordinaire, Ma loi d'avenir.
Voilà.
Oui, c'est un très grand livre.
Ah oui, un livre décisif.
Oui, qui a été étudié par Pelos, notamment. C'est ça. Hein, c'est ça. Oui, c'est remarquable, Claire Desmarres. Claire Desmarres qui cherchait la liberté sexuelle pour les femmes, qui l'a essayé, mais c'était difficile. Elle s'est suicidée, Claire Desmarres. Mmh. C'était très, très difficile, malgré tout. La distance entre la théorie et la pratique, c'était absolument pas évident. Alors, puisque nous suivons ce chemin des jouissances, si l'on peut dire, ou des socialistes plus du plaisir, sautons un peu par-dessus les temps, Léon Blum. Léon oui. Blum ferait partie de cette famille, d'une certaine manière. Et c'est intéressant, parce que Léon Blum est un homme d'État, et un homme d'État des plus consciencieux, des plus sérieux, et en même temps, il a une pensée sur la sexualité.
Ah oui.
Vous en parlez.
Il a une pensée très élaborée sur les questions de sexualité, et plus globalement de sensualité, et très tôt dans sa vie intellectuelle. En 1907, il publie « Du mariage », qui est un ouvrage à plus d'un titre révolutionnaire, qui lui vaut des inimitiés féroces.
Énorme.
Et jusqu'à la fin de son existence, « Du mariage » lui sera reproché jusqu'au bout, en particulier dans les années 30, de manière ordurière. Et dans « Du mariage »,
Le juif jouisseur.
Voilà. Tout à fait. Ou bien ce Blum aux crispations féminines, aux colères mouillées, aux imprécations, aux crises. Ça, c'est 1939, Jean-Pierre Maxence. Voilà. Donc, il porte réputation de socialiste jouisseur. Il est l'objet d'attaques féroces, mais il tient bon. C'est-à-dire que tout au long de sa carrière politique, je le crois, il met en avant cette nécessité absolue d'émanciper les hommes et les femmes dans la totalité de leur expérience. Mmh. Et c'est, par exemple, au procès de Rion, ce qu'il redit alors qu'il est dans une situation tragique.
Terrible,
Il défend le Front populaire aussi pour cela. Il dit non, il s'agissait d'apporter un peu de lumière, un peu de soleil, un peu de bonheur à des quotidiens qui étaient des quotidiens âpres et douloureux.
Les congés payés, les plages, c'est une extension au fond de cela. Hein, les corps, le soleil, la sexualité pour les prolétaires, pour les ouvriers. On disait plus tout à fait les prolétaires, on disait les ouvriers. Oui, c'est très, très intéressant, Léon Blum. Alors vous parlez aussi, on ne va pas pouvoir parler de tous, mais il y en a un que je trouve très sympathique, c'est Marcel Samba.
Oh oui, une belle découverte pour moi. Alors, pour moi, après d'autres, puisque les cahiers noirs de Samba ont été édités récemment, et c'est une mine, les cahiers noirs, puisque effectivement, Samba tâche, tant bien que mal, avec beaucoup d'honnêteté. Et beaucoup de sensibilité d'articuler la vie sensuelle et l'engagement politique et social. Il considère que tout cela forme un tout et que lorsqu'on est heureux de corps, on est souriant d'esprit. Mmh. Et il a une pratique très ardente de tous les plaisirs. Quel qu'il soit.
Le plaisir sexuel. Il aime bien la sexualité.
Oui, je commençais par la sexualité, mais vous avez raison, c'était pas obligatoire. Il aime beaucoup manger, il adore les huîtres, par exemple, mais pas seulement.
Juste une parenthèse sur les huîtres. Les huîtres reviennent souvent dans votre livre, comme si vous aviez pris les huîtres comme critère. Mais est-ce que c'est vous qui les avez pris comme critère ou est-ce que c'est eux, les socialistes?
Ah, c'est une
les
vraie
huîtres,
question.
Manger des huîtres, ça revient très très souvent.
C'est une vraie question. Il y a probablement une dimension personnelle qu'il ne faut pas sous-estimer. Je détestais les huîtres et maintenant je les adore. Je pense qu'il valait la peine de trouver quelques fils directeurs, quelques fils rouges. Et il m'a semblé que la dégustation des huîtres était une récurrence, à la fois comme horizon désirable et comme repoussoir. Déguster une huître, ça veut dire mettre les sens en éveil. Ça veut dire aussi, si possible, la déguster en bonne compagnie, avec des amis ou des êtres qu'on aime. Ça veut dire construire des sociabilités tout à fait choisies et recherchées. Et c'est vrai que entre Enfantin, dont on parlait tout à l'heure, qui se faisait livrer des huîtres à Sainte-Pélagie dans sa prison, et puis François Mitterrand, qui adorait les huîtres, il y a comme un petit parcours.
Connivence, absolument. Alors, j'anime aussi, j'avoue.
Sur les huîtres, justement, je voulais dire que dans le dictionnaire des sexualités, il y a une notice sur les aphrodisiaques qui a été faite par un professeur mais de sciences exactes qui enseigne à l'Université de Lausanne et à l'Université de Genève et qui fait la liste des aphrodisiaques en disant ceux-là, bon, ils sont connus, mais ça ne marche pas, ceux-là, ça marche, etc. Et les huîtres font partie des aphrodisiaques qui, paraît-il, marchent. Et il semble que Casanova en dégustait une quantité absolument incroyable. Pour être en mesure d'aller honorer les quelques femmes qu'il allait rencontrer l'une après l'autre dans un temps assez restreint.
Voilà. Il y a un effet des huîtres, et puis aussi le symbolisme quand même des huîtres qui est très important. Laissons ces socialistes de la jouissance, mais le côté de la sèse est très important chez les socialistes. L'idée que le corps, il faut le dominer, qu'il ne faut pas donner trop de plaisir au corps, ça existe beaucoup. Alors, un des plus intéressants de ce point de vue-là, c'est quand même Proudhon. Pouvez-vous nous dire un peu ce que Proudhon disait à ce sujet ?
Oui, j'ai des scrupules à le dire, parce que ça va très loin chez Proudhon. Mais votre remarque initiale est importante, très importante. Les socialistes de l'ascèse, de la contention, de l'autocontention, sont majoritaires.
Ils sont sans doute majoritaires.
Ils l'emportent. À peu près tous les moments de cette histoire que j'ai essayé de reconstituer parmi eux, effectivement, il vaut la peine de laisser une place importante à Proudhon, qui est un penseur de la libération de l'individu en société, qui est un vrai penseur révolutionnaire au XIXe siècle, mais qui a, sur la question de la sexualité en particulier, et sur la question des femmes, et plus globalement sur la question des plaisirs sensuels, une position radicalement hostile. Et tout au long de sa vie d'écrivain, de sa vie d'auteur, c'est un leitmotiv obsessionnel. Il pense par exemple qu'il faut se consacrer au travail parce que le travail est le plus puissant de tous les anti-aphrodisiaques. Voilà un peu. Il y a la vraie vie, la vie du travail, la vie de la volonté, la vie où l'homme, dans sa virilité, s'accomplit comme l'Hercule. Et puis, il y a la futilité dangereuse qui détourne des vraies valeurs, incarnée par la femme tentatrice.
Oui, c'est ça.
Et jouisseuse. Et il faut se défier de la femme comme du diable.
Voilà. Autrement dit, il y a une profonde misogynie de Proudhon qui est compliquée. Elle s'alimente aussi à des sources presque chrétiennes. La peur de la femme et des femmes est là très profondément chez Proudhon. De ce point de vue, il est extrêmement intéressant. On ne va pas pouvoir malheureusement parler de tout, mais les problèmes de contraception ont été très importants. Les marxistes étaient très anti-malthusiens. Ils pensaient qu'il fallait faire le plus d'enfants possible parce que c'était comme ça qu'on ferait la révolution. Et on retrouve cela dans le Parti communiste entre les deux guerres et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1950. Pouvez-vous nous dire un mot des querelles qu'il y a eu, des débats très importants qu'il y a eu, par exemple, avec Jeannette Vermeersch et Jacques de Rogy?
Oui, c'est un grand sujet à soi seul. Là, une inflexion importante se produit dans l'histoire des socialismes avec, effectivement, 1917 et les années et les décennies qui suivent. Le Parti communiste peut être, sauf exception, parce que c'est jamais aussi limpide que ça en a l'air au début, dans le camp des socialismes ascétiques. Pour des tas de raisons. Il ne faut pas détourner du combat qui seul vaut, c'est-à-dire la révolution et la mise en place d'une société socialiste. Les passions font l'objet d'une défiance marquée et tout ce qui favorise le plaisir des corps est considéré comme dangereux pour la cause. Alors ça se traduit de mille manières, effectivement, sur les questions de contraception ou d'avortement, sur la relation avec l'entité de la famille. Les communistes sont souvent très favorables à la famille, que d'autres, au même moment, voudraient faire exploser, comme un des cadres de l'oppression ambiante. Ils n'hésitent pas à remettre en cause les tentatives des surréalistes ou les tentatives des socialistes réformistes sur ce plan-là, hein, sur le plan de la relation au plaisir qui détourne de la vraie vie. Et donc, cette idée d'exercer sa volonté est une idée tout à fait récurrente. Il y a un très beau débat tout à fait symptomatique en 1976, au moment du 22e congrès du Parti communiste, où les autorités autour de Georges Marchais laissent entrer un petit peu d'un débat possible sur la place de la sensualité dans la vie, y compris collective, et très très vite c'est reverrouillé. À tel point qu'on a l'impression qu'il y avait derrière ça un calcul, pas du tout l'envie de parler de sensualité, mais l'envie de masquer le gros enjeu de l'époque qui était l'abandon de la dictature du prolétariat. Les communistes ont toujours beaucoup de mal à se sentir à l'aise avec les questions de sensualité.
L'homosexualité n'était pas très bien vue au Parti communiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous parlez beaucoup de Daniel Guérin. Très intéressant, Daniel Guérin. Peut-être pouvez-vous nous rappeler d'un mot qui il était. À lui seul, on pourrait lui consacrer une émission.
Oui, il mériterait beaucoup de temps. Il se qualifiait comme un homme excentrique. Et je pense que le qualificatif est intéressant. Il a mené une carrière qui l'a conduit dans bien des familles des socialismes du XXe siècle. Il a considéré que son émancipation et sa prise de conscience de la nécessité d'une révolution sociale, c'est par les sens qu'il les avait réalisés, par les plaisirs que représentait pour lui la connivence sensuelle et sexuelle avec des hommes qu'il rencontrait, dont il assumait complètement la réalité, c'est-à-dire qu'il a été un des grands promoteurs de l'homosexualité dans le champ politique et social, et il a considéré que le travail d'un socialiste avec une forte tendance libertaire chez lui,
très
marqué, avec un héritage qui est un héritage 19e siècle, un héritage saint-simonien par exemple, malgré toutes les nuances qu'il apportait au saint-simonisme, ce travail d'émancipation, il devait se réaliser sur tous les terrains. Le terrain colonial, le terrain des relations internationales, le terrain des relations entre les hommes et les femmes,
le terrain de la sexualité.
Et le terrain de la sexualité, telle qu'elle. Et il a été souvent considéré comme périphérique, sympathique, mais peu réaliste, alors qu'il met le doigt sur des questions absolument fondamentales.
Ces archives, vous les avez vues, je pense, sont à la bibliothèque de la BDIC,
Documentation
internationale contemporaine. Il a fait un legs de ses fonds et il est très étudié, je crois, aujourd'hui. Tout à fait important. Alors, dernière question, on a beaucoup parlé d'hommes, sauf qu'on a évoqué Claire Desmarres. Est-ce que les femmes socialistes, puisque ce sont les socialistes que vous étudiez, s'expriment? Il y en a forcément une. Elles sont plus minoritaires.
Elles sont minoritaires.
Nécessairement.
Elles ont un peu de mal à se faire entendre. Parmi celles qui se font entendre, par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, mais même au-delà, beaucoup tiennent le discours suivant. Je suis socialiste avant tout. Je suis favorable à l'émancipation sociale. L'émancipation sociale, c'est aussi la levée de tous les interdits et de toutes les oppressions qui pèsent sur nous, les femmes. Quant à faire de la sensualité un objectif, un horizon affirmé et proclamé, c'est moins fréquent. On peut par exemple se référer à Suzanne Lacor dans les années 1930 qui dit que la femme socialiste militante doit savoir repriser les chaussettes de son mari. Et c'est une manière pour elle de militer. Alors on trouve là aussi, et ce serait passionnant, de la même manière qu'il faudrait que quelqu'un un jour peut-être fasse une histoire des huîtres, que quelqu'un fasse une histoire qui pourrait être celle des relations entre féminisme et sensualité. Je pense que ce serait très très intéressant. J'avais pas tous les éléments, c'était trop compliqué pour moi, mais ce groupe passionnant à étudier qui s'appelle les Mignonnes Allons Voir Sous la Rose, dans des temps plus contemporains, pour le de part et d'autre de la victoire électorale des socialistes de 1981, dit des choses sur l'émancipation sensuelle des femmes, des choses qui n'émergent que très peu. Dans les grands congrès socialistes ou dans le discours des hommes socialistes.
Alors, il y a une femme très intéressante, mais justement ambivalente, Madeleine Pelletier. La doctoresse Madeleine Pelletier, elle a défendu la liberté amoureuse des femmes, le droit à l'avortement très tôt. Elle a d'ailleurs été mise dans un asile psychiatrique pour ça, où elle est morte en 1939. Et on a dit qu'elle délirait, quoi. C'était pas possible. Mais d'un autre côté, Madeleine Pelletier, qui avait sans doute des tendances homosexuelles, elle avait une grande amie qui s'appelait Aria Lee, qu'elle aimait passionnément, mais jamais elle n'a franchi, semble-t-il, la frontière sexuelle. C'était quand même pas possible. Et là on voit bien les problèmes de difficultés que Janine a étudié beaucoup dans ses travaux. Alors, tout ça est absolument passionnant et met beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses encore. On a évoqué que quelques thèmes de votre livre, Thomas Boucher, mais c'est évidemment d'une grande richesse. Alors, je rappelle le titre de votre livre, redites-le nous.
Volontiers.
Socialisme.
Les fruits défendus.
Les fruits défendus.
Socialisme et sensualité depuis le 19e siècle.
Et c'est paru chez Stock.
C'est paru chez Stock, effectivement.
Alors, avant de pénétrer dans le dictionnaire des sexualités, je voudrais évoquer un auteur que j'aurais volontiers invité aujourd'hui, parce que ça serait un contrepoint formidable, mais c'était trop volumineux pour notre émission. Jean-Yves Mollier, qui est professeur d'histoire à Saint-Quentin en Yvelines, vient de publier « La mise au pas des écrivains ». L'impossible mission de l'abbé Bethléem au XXe siècle. Et c'est paru chez Fayard en 2014. Alors, cet abbé Bethléem était originaire des Flandres. C'est de là que lui vient son nom. Il n'a pas du tout choisi Bethléem comme lieu, comme devise, pas du tout. Il s'appelait vraiment Bethléem. Alors, c'est un homme qui est hanté par la sexualité. Il fait du combat contre la sexualité, contre toutes les déviances morales, le sens de sa vie, et notamment par les livres. Pour lui, il y a des bons et des mauvais livres. Alors, il publie un brûlot là-dessus, qui a eu un énorme succès à la fin du 19e. Ensuite, il fait une revue qui est absolument bénie, c'est le cas de le dire, par la hiérarchie, pour indiquer aux familles quels sont les bons et les mauvais livres. Et c'est ça vraiment le sens de sa vie. Alors, ça donne lieu à toutes sortes de textes, à toutes sortes de choses qui viennent absolument en contrepoint de ce que nous venons de voir. Alors, il est mort en 1939, donc on ne peut pas dire qu'il a été vichiste, puisque par définition, il était décédé. Mais le Pétain se revendique un peu de lui. Peut-être pas Pétain, mais les gens qui l'entourent, pour justement cette morale qui est vraiment travail, famille, patrie, tout à fait au cœur de la pensée pétiniste. Et même, semble-t-il, d'après ce que dit Jean-Yves Mollier, il a influencé la loi de 1949 qui instituait le contrôle des publications en direction de la jeunesse. Il y avait toujours cette idée que la jeunesse devait être absolument préservé de toute allusion sexuelle dans les années 1949-1950. On est plutôt assez répressif de ce point de vue-là. Au moment où Simone de Beauvoir publie en 1949 le deuxième sexe, la même année, il y a cette loi. C'est très, très intéressant et très symptomatique. Et quelques années plus tard, la discussion avec Jeannette Vermeer, Jacques de Rogy, sur le problème de contraception. On se rend compte à quel point les années 50-60 étaient des années cruciales, très, un peu répressives, ce qui va expliquer ensuite peut-être 1968. Voilà ce que je voulais dire en recommandant le livre de Jean-Yves Mollier, qui mériterait à lui tout seul, évidemment, une émission vraiment à lui tout seul. Alors, Janine Mossus-Lavaux, nous arrivons à la synthèse des synthèses. Dictionnaire des sexualités
collection bouquins chez Robert Laffont. Et vous nous avez dit comment vous situiez ce livre dans votre propre carrière, propre production. Mais maintenant, on aimerait que vous nous entraîniez un petit peu à l'intérieur du livre. D'abord, première question, comment est-ce que vous avez fait pour réaliser une telle synthèse? Comment vous avez travaillé?
Alors, j'ai travaillé tout d'abord en établissant une liste de notices, donc de A à Z, puisque c'est un dictionnaire, sur, au fond, les sujets, les questions, les personnes qui me semblaient importants. En tout cas, qui me semblait à moi, parce qu'il y a effectivement de la subjectivité dans tout ça. Et j'ai voulu surtout prendre en compte tous les champs, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, civilisation, religion, etc., mais aussi la littérature, donc les auteurs dont j'avais envie qu'on parle, le cinéma. Alors, pour vous donner un exemple, je n'ai pas choisi, par exemple, de demander à un spécialiste de faire une notice « Qu'est-ce que le cinéma nous dit sur les sexualités ?» mais j'ai choisi des films, des acteurs et des actrices.
Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Alors, je vais vous donner des exemples, d'autant que c'est assez amusant, parce que les gens qui commencent à le lire me disent « Ah, moi, j'ai commencé par la notice Angélique Marquise des Anges. » Parce que, alors, les films, par exemple, c'est... Alors, Angélique Marquise des Anges, bien sûr, c'est Le Souffle au cœur, c'est Jules et Jim, c'est... Au fond, tous ces films, moi, qui me parlaient beaucoup sur ce sujet. Et puis, il y a aussi Woody Allen, parce qu'on ne peut pas passer à côté de Woody Allen. Et d'ailleurs, la première phrase, je dirais, imprimée du dictionnaire, celle de mon avant-propos, c'est une citation de Woody Allen qui dit « Je ne sais pas quelle est la question, mais je connais la réponse, c'est le sexe. » Voilà. Alors, à partir de là, donc on peut interroger... cinéma et sexualité. Alors, on trouve Ava Gardner, on trouve Marilyn Monroe, qui a été fait par Michel Schneider, puisqu'il avait écrit ce magnifique livre. Voilà, qui avait écrit ce magnifique livre sur Marilyn Monroe. Mais il y a aussi la musique. Alors, la musique, il y a le jazz, qui a été fait par Philippe Carle, il y a l'opéra aussi, il y a les chansons et les chanteuses. Et les chanteurs, donc j'ai demandé à Didier Varro, qui a fait aussi bien Barbara que Georges Brassens, que Madonna, que Lady Gaga. Enfin, il y a tout ce qui, au fond, parle aux gens et moi me parlait. Alors, il y a les lieux, les familles politiques. Donc, on y reviendra parce que c'est effectivement en résonance avec ce que disait Thomas Boucher, puisque il y a que nous dit le Parti communiste, nous a dit et nous a prescrit ou proscrit sur les sexualités le Parti communiste, le Parti socialiste, le Front national, la droite, les centristes, enfin les écolos, tout le monde. Et puis il y a aussi des concepts, mais en tout cas des mots. Il y a désir, il y a le baiser, pas au sens du verbe, mais l'embrassement. Il y a érotisme, il y a l'amour. Alors amour, il y a amour tout court, une notice superbe. Et puis il y a aussi l'amour au chant. Alors là, pour vous simplement vous donner une idée de comment j'ai trouvé aussi mes auteurs, hein, parce que j'avais 185 auteurs.
185
Alors,
auteurs.
Il y avait ceux de mes réseaux, ceux que j'allais chercher, et puis des choses qui arrivaient comme ça, c'est-à-dire on me signale un jour qu'une thèse va être soutenue en province sur la sexualité en Saône-et-Loire, disons du 19e siècle jusqu'à une partie du 20e. Et j'ai immédiatement contacté l'auteur en lui disant il faudrait me faire une notice sur l'amour au chant. Alors qu'il l'a faite avant même d'avoir soutenu sa thèse, parce qu'il y a des personnes très confirmées, connues, etc., parmi mes auteurs, mais il y a aussi des jeunes. Donc il y a les seniors, les jeunes
chercheurs,
et entre les deux, les mid-term, qu'il ne faut surtout pas oublier. Alors, donc, dans mes sujets, j'avais aussi la danse, par exemple. Alors, j'ai demandé là à des passionnés, c'est-à-dire à une passionnée du tango argentin, de faire la notice sur le tango argentin, qu'elle a conclu d'ailleurs en disant que les grands bals de tango argentin, c'était au fond une grande cérémonie échangiste, mais sans coït. Voilà. Mais pour elle, c'était ça. Il y a également une notice sur le flamenco. Il y a des choses très différentes. Alors, dans ces concepts, comme je vous disais, il y a plaisir, désir. Il y a amant aussi. Demandez à Camille Laurence, l'écrivaine.
Un très bel article de Camille Laurence, très bien écrit. Oui.
J'ai tenu à demander aussi à des écrivains des choses. Mais surtout, ce qui est important, je pense, pour voir qui finalement a fait quoi, enfin les 185 auteurs que j'ai réquisitionnés, c'est que non seulement il y a des universitaires mais aussi des critiques d'art, critiques de cinéma critiques musicaux et toutes sortes de témoins et d'experts. Mais ce que je leur ai demandé, c'était sur les différents sujets qu'ils acceptaient, sur lesquels ils acceptaient d'écrire, c'est au fond de s'exprimer selon leurs affects, les choses qu'ils aimaient, c'est-à-dire d'avoir une posture qui était la leur. Et donc ça donne ça donne des notices qui sont bien sûr impeccables sur le plan, je dirais, de l'érudition. Ça, c'était quand même une condition, mais aussi des notices qui sont parfois très engagées et qui disent le point de vue qui peut être très original de l'auteur.
Oui.
Et alors ça peut alors. Sur certains sujets, j'ai des auteurs qui expriment des idées ou des prises de position très différentes sur la prostitution. La prostitution, par exemple. Oui. Eh bien, j'ai demandé des notices. Une à une universitaire, Amélie Maugère, qui a soutenu sa thèse et qui a eu le prix de thèse de Dalloz, d'ailleurs, sur les politiques publiques de la prostitution depuis le Moyen-Âge. Mais j'ai demandé aussi à la secrétaire générale du STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels, qui est aussi une écrivaine, qui a fait des études jusqu'en master et qui est travailleuse du sexe. Bon, elle a tenu à ce que ça figure dans la façon dont on caractérise les auteurs dans la liste donnée au début du dictionnaire. Mais à côté de ça, il y a aussi Monsieur Yves Charpenel qui j'ai demandé la notice sur le proxénétisme et qui lui est très hostile à tous les discours qui peuvent être tenus de façon plus, je dirais, libertaire sur la question de la prostitution.
Donc, il n'y a pas une position unique qui serait défendue sur la prostitution.
Voilà. Que la prostitution est un sujet sur lequel, bon, vous le savez aussi bien et mieux que moi, Michel, les féministes s'affrontent de façon parfois très, très violente.
Oui. Hein. Donc, un sujet très difficile.
C'est très complexe, très difficile. Donc je voulais aussi qu'il y ait cette tension qui existe dans le livre.
C'est très intéressant ce dictionnaire. C'est que, bien entendu, on peut le consulter comme tout dictionnaire à telle ou telle notice. Mais quand on l'a parcouru, on ne lit pas ça de A à Z, il y a 1000 pages quand même au moins.
1024.
Mais il y a un ton. Il y a un ton qui tient à la polyphonie que vous avez évoquée, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des auteurs de disciplines très variées, il y a des historiens, des sociologues, des psychologues, des psychanalystes, des auteurs écrivains,
Des philosophes.
Des philosophes, absolument. Et c'est vrai que c'est très ouvert, voilà, il y a une espèce de liberté. Alors, puisque je me donne la parole là, il y a des notions dont l'absence m'a surprise. Par exemple, il n'y a pas jouissance.
Voilà, ça.
Il n'y a pas orgasme. Alors, c'est très curieux. Oui. Alors que vous donnez coït, on trouve les organes génitaux, tous bien sûr. Mais voilà, comment vous avez défini votre liste ?
Alors, il y avait orgasme dans ma première liste. Mais la personne qui tenait à le faire et qui avait dit moi je veux faire l'analyse orgasme, finalement
a renoncé
au tout dernier moment.
C'est trop difficile.
Ce qui fait que je l'ai menacé de de dire publiquement que lui, qui était censé être le spécialiste de la chose, N'avait pas fait l'orgasme.
Et ben voilà.
Voilà. Donc, alors je ne dirai pas son
l'orgasme
nom parce
que l'orgasme a fait défaut. Non,
voilà,
non, non,
nous n'allons pas outer les auteurs qui ont renoncé à certaines notions, mais enfin voilà, ça, c'est ce qui s'est passé.
Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que vous citez aussi des textes célèbres dans le domaine des sexualités. Le fameux Conte d'Irène, 1928. Ouais. Alors ça, c'est très passionnant parce que
Aragon.
C'est probablement Aragon.
Ah, c'est Aragon.
Au moment, oui. C'est Aragon, oui.
C'est Aragon.
Au moment où nous avons dit tout à l'heure que le Parti communiste était plutôt répressif, enfin, entre guillemets, naturellement, dans le domaine des sexualités, Aragon fait un texte extraordinairement érotique, mais pas sous son nom.
Voilà, sous pseudonyme.
Donc ça, c'est, oui. Ça rejoint un peu les
oui,
les
et il mettra beaucoup de temps avant de reconnaître...
Est-ce qu'il l'a reconnu, finalement ?
Tout à fait à la fin, oui, il l'a reconnu, mais c'est vrai que c'est tout à fait, je dirais, typique de ce qu'on peut voir, en tout cas, sur les relations, enfin, sur ce que le Parti communiste a dit sur les sexualités pendant longtemps. Oui. Et là, je rejoins le sujet qui était abordé tout à l'heure par Thomas Boucher. Il faut voir que encore et même beaucoup en 1956, quand Marie-Andrée Lagroix Veillalé crée la maternité heureuse, qui deviendra 4 ans plus tard le planning familial, enfin le mouvement pour le planning familial français, les socialistes, plusieurs socialistes, déposent immédiatement des propositions de loi pour justement légaliser la contraception, comme elle le demande, puisque cette association est destinée à ça, mais que les communistes, et notamment Jeannette Mermersch en tête, se lancent dans une bagarre effrénée parce qu'ils considèrent que le birth control, comme ils l'appellent à l'époque, pour faire un peu américain, épouvantail américain, va détourner les ouvriers de la révolution, de la lutte des classes.
Enfin, c'est ce que disait Thomas Boucher tout à l'heure.
Vous avez dit. Oui. Et il y a un texte, justement, de Jeannette Thorez Vermersch à l'époque, qui est publié dans la presse du Parti communiste, qui dit « Mais enfin, depuis quand les femmes prolétaires ambitionneraient-elles d'accéder aux vices de la bourgeoisie ?»
Oui.
Jamais. Et voilà, je vous le cite en raccourci, mais il y a un long développement là-dessus. Et ensuite, il y a aussi une lettre de Maurice Thorez à Jacques Desrogis, parce que Jacques Desrogis, qui
des
était
enfants malgré nous,
des enfants, qui avait publié Des enfants malgré nous, et avait envoyé ce livre à Maurice Thorez avec une dédicace disant que il pensait que la libération de la femme qui ne s'achèvera que dans le communisme, etc., mais que ça y contribuait. Et Maurice Thorez lui a répondu en publiant le texte dans l'Humanité. Comment vous, camarades Desrogis, vous pouvez prôner des méthodes barbares américaines, etc.
Enfin, c'est l'éternel problème, le problème du malthusianisme, qu'on a évoqué tout à l'heure. Il faut reconnaître, à la décharge, si l'on peut dire, du Parti communiste, que par contre, sur l'avortement, ils étaient...
Parce que c'était une pratique populaire.
Voilà,
ils savaient que leur troupe, en tout cas féminine, leur mode de contraception, parfois, obligatoirement, c'était l'avortement. Mais écoutez, d'ailleurs, l'avortement clandestin, qui n'a été légalisé que par la loi de janvier 1975.
Et l'on voit, à travers tout cela, à travers vos deux livres, que la sexualité, les sexualités, c'est aussi politique.
Ah, c'est extrême.
À la politique, on le voit bien aujourd'hui.
Ouais.
Enfin, c'est très, très important. Donc, c'est d'une richesse énorme, considérable. Il y a aussi, bien entendu, un article genre. Toutes les personnes qui veulent se référer au genre, on trouve une très bonne synthèse.
De Réjeanne Sénac.
Réjeanne Sénac sur le genre.
Sur le genre.
Qui fait une excellente mise au point. Alors, avant de nous quitter, je voudrais signaler la réédition d'un texte, j'allais dire, culte de Michel Foucault, qui s'appelle Herculine Barbin, dite Alexina B, dans une nouvelle édition qui vient d'être faite par Éric Fassin, avec une postface d'Éric Fassin, qui fait une mise au point sur l'histoire compliquée de ce texte. Michel Foucault avait exhumé ce texte comme il avait exhumé le Pierre Rivière. Il avait publié presque comme cela. Et puis ensuite, il y a eu une édition américaine où il avait donné un texte qui a été ensuite traduit en français. Et dans l'édition présente, on retrouve l'édition originale, les textes qui ont été ajoutés et une postface d'Éric Fassin qui fait véritablement le point de tout cela. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était les lundis de l'histoire. Présenté aujourd'hui par Michel Perrault, avec Thomas Boucher et Janine Mossus-Laveau. Et puis la prise de son était assurée par Philippe Palares, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, c'est Pas la peine de crier par Marie Richeux. Au revoir.